Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le Conseil de sécurité a renouvelé ce lundi 30 août le régime de sanctions contre le Mali. La décision comporte l'interdiction de voyager et le gel des avoirs qui seront appliqués aux individus et aux entités pendant une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2022. Une décision qui intervient après la publication d'un rapport de l'ONU qui note l'augmentation de 25% des violations des droits de l'homme dans le pays. Par ailleurs, un document du Centre Carter paru la semaine dernière constate des coups d'arrêt et une méfiance croissante des Maliens à l'égard de l'accord pour la paix et la réconciliation. Pour parler de ces différentes situations, nous avons fait appel à trois personnes. Boubacar Boukoum, politologue. Docteur Ali Tunkara, sociologue et chercheur au cabinet CI3S. Au téléphone, André Bourgeot, chercheur au CNRS à Paris et spécialiste du Sahel. Je suis Mariam Meiga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je commencerai par vous, Boubacar Boukoum. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le régime de sanctions contre le Mali. Cela veut dire quoi concrètement?
En réalité, ce n'est pas nouveau. C'est déjà, ils sont dans la même dynamique de mettre la pression sur l'État du Mali pour la continuation de l'application de l'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'accord étant reconnu déjà comme étant une entente internationale qui a été actée et que les différents acteurs ont signé depuis le 15. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté d'application. Donc c'est tout à fait normal que cette sanction soit renouvelée parce que simplement, il y a une crainte qu'on aille à la non-application de l'accord, vu que beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer l'accord. Certains demandent la révision, d'autres rejettent totalement l'accord. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui encadrent cet accord et qui veillent là-dessus, qui veillent à ce qu'on aille vers l'accord, les sanctions, elles ont existé, mais en réalité, de quel acteur on parle réellement, ceci n'est pas bien précisé. Aujourd'hui, on ne fait que reconduire effectivement ces mêmes sanctions. Je pense que c'est plutôt du formalisme, plutôt que des vraies menaces.
Docteur Ali Tunkara, ces sanctions servent-ils à quelque chose?
Bon, elles sont quand même symboliques parce que si on regarde un peu, elles concernent à la fois l'État du Mali, l'ex-rébellion qui sont les deux acteurs principaux signataires de l'accord pour la paix, même s'il y a la communauté internationale. Mais concrètement, je crois que c'est quand même important parce qu'il faut, le rappeler, si ces sanctions sont infligées, elle pourrait empêcher les acteurs concernés de se mouvoir. Elle pourrait même être utilisée contre ces acteurs, justement, afin de ne pas occuper certains postes à responsabilité. Donc, au-delà du symbolique, il est de la responsabilité des Nations Unies de veiller à ce que l'accord pour la paix et la réconciliation, qui a quand même réuni la partie malienne, la partie ex-rébellion, et la communauté internationale sous les auspices de l'Algérie. Donc tout cela prouve à suffisance que les Nations Unies ont, de façon symbolique, dans cette obligation, d'attirer l'attention des acteurs pour leur dire que voilà, nous sommes là, vous êtes dans l'obligation d'honorer les différents engagements que vous avez pris en 2015 lors de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Lesquels engagements, effectivement, font que vous êtes obligé d'œuvrer pour la paix, vous êtes obligé de ne pas vous associer à des acteurs qui seraient contre la paix, vous êtes obligé de faire en sorte que les différentes dispositions de l'accord qui relèveraient de votre compétence, vous devez de façon scrupuleuse les observer, les appliquer de façon effective. Donc tout cela, effectivement, est un rappel à la fois pour l'État du Mali et pour l'ex-rébellion de dire qu'attention, au regard de nos différentes investigations, on trouve que l'application effective de l'accord pour la paix et la réconciliation, elle peine effectivement à être une réalité pour des raisons très évidentes qu'on pourrait évoquer plus tard. Mais pour dire tout simplement, ces sanctions, effectivement, elles visent clairement les responsables, que ce soit la plateforme, la CEMA ou l'équipe gouvernementale du Mali, y compris même le président de la République à certains égards, si toutefois les différents engagements qui ont été pris ça et là n'arrivent pas à être honorés. Donc ces sanctions, effectivement, du point de vue symbolique, elles ont un impact négatif si elles venaient à être infligées contre un individu quelconque.
André Bourgeot, vous participez à cette émission au téléphone. Ce régime de sanctions adopté par le Conseil de sécurité cible qui au Mali?
Je pense que ce régime de sanctions, on est fondé sur des observations suivantes, sur le constat suivant, c'est que effectivement, les conditions d'application du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali connaît beaucoup de difficultés dans toutes ses composantes d'application. Donc je suppose que c'est vécu comme étant une menace et que cette menace de sanctions, elle s'adresse émanant de la communauté internationale, elle s'adresse à tous les belligérants, ça veut dire la coordination des mouvements d'Azawad, ça veut dire la plateforme, mais ça veut dire aussi que la cible visée, c'est le gouvernement de transition actuel issu du coup d'État du 18 juin 2020. Donc c'est ces trois objectifs-là. Ensuite, le responsable, je crois que toute la communauté internationale demande, y compris le gouvernement de transition, demande une application stricte du contenu de l'accord. Ce qui me gêne, c'est le recours à la notion de strict. Alors, sur le fond, ça repose le problème. Quelle sera la marge de manœuvre pour la relecture intelligente, puisque c'est la formule officielle qui est utilisée pour aller dans le sens de l'application de l'accord de paix? Si on demande, si à l'issue justement du dialogue national exclusif, le peuple malien a décidé qu'il fallait procéder à une relecture intelligente, ça veut dire qu'il y aura nécessairement des modifications. Or, ces modifications, elles vont à l'encontre de cette notion de strict qui doit être appliquée selon la communauté internationale. Voilà. Ensuite se pose le problème suivant, c'est que, tel que ça a été présenté par les interlocuteurs précédents, je crois quand même aussi qu'il faut faire référence au peuple malien. Est-ce que le peuple malien donne effectivement globalement son adhésion au contenu et aux transformations institutionnelles, politiques et sociales qui recèlent cet accord? Je crois que le problème est là fondamentalement.
Alors, un rapport du Centre Carter sur le Mali paru le 26 août dernier. Le document parle de coups d'arrêt dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix, mais aussi d'une méfiance croissante de la population vis-à-vis du dit accord. Qu'est-ce qui expliquerait cette méfiance des Maliens vis-à-vis de l'accord Boubacar Boko?
Écoutez, cet accord est issu d'un accouchement très douloureux, dès lors que, effectivement, on a constaté qu'au moment de signer l'accord, d'abord, le peuple n'a pas été consulté. Ensuite, quand bien même on a occulté le peuple en signant l'accord, cet accord n'a pas été passé devant l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas eu une large communication de l'accord et une explication pédagogique de l'accord. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne se retrouvent pas dans l'accord. Donc on a une rupture entre cette communication gouvernementale et la compréhension qu'on fait de l'accord. Et le deuxième élément, c'est que le gouvernement, à aucun moment, n'a pu définir elle-même sa propre posture de la lecture de l'accord. C'est en ce moment que le peuple allait pouvoir dire « voilà l'orientation de notre État et on se ligue derrière notre État, derrière telle ou telle vision et on est d'accord ou on n'est pas d'accord ». L'État a laissé l'interprétation à tout le monde. Chacun a interprété l'accord comme bon lui semble. Les gens de la CEMA ont interprété à leur façon, la plateforme a interprété à sa façon, l'État n'a même pas daigné nous dire quelle interprétation elle en fait, et le peuple, chacun spécule. Donc ce désordre fait qu'aujourd'hui, l'accord, il est pris dans tous les sens. Mais ce qui est important de comprendre dans l'accord, c'est que, en réalité, l'accord n'est autre chose qu'une architecture incomplète. Donc, quand on dit de l'appliquer en l'état, l'accord ne peut pas être appliqué en l'état. C'est là, la communauté internationale le sait. Nos partenaires à tous les niveaux le savent parce que l'accord a juste donné la forme et il fallait mettre du contenu. Parce que quand vous regardez dans l'accord, vous avez l'architecture institutionnelle qui n'est pas définie. De quel modèle architectural on va parler en réalité? Donc il faut que les Maliens se parlent et qu'on se mette d'accord sur le modèle de l'architecture institutionnelle qu'il faut mettre en place. Et d'autre part, on fait appel dans l'article 15 d'un mécanisme de négociation. Et ce mécanisme, ce qui est la règle de rétention et de la distribution de la richesse, aussi n'est pas définie dans l'accord. Donc l'accord, en fait, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas un accord totalement fermé. Et ils ne l'ont pas fermé sur l'article 65 qui permet sa révision. Cela ne veut pas dire qu'on sort de l'esprit de l'accord. Mais il faut récompléter l'accord, donner les éléments qui manquent et se mettre d'accord sur l'interprétation des différents faits. Donc en réalité, cette révision à laquelle on fait allusion ne change en rien le principe de dire qu'on respecte l'accord. Ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est de dire l'intoxication ou la mauvaise compréhension ou la tendance à dire qu'il faut totalement rejeter un accord international, quand même, est un problème. Parce que si un État souverain décide d'apposer sa signature sur un document, il est tenu de le respecter. Maintenant, comment ? On peut toujours en discuter, on peut toujours voir les règles, on peut voir là où ça ne va pas. Et maintenant, il faut bien communiquer avec le peuple. Il y a des choses, on sait, quand on l'explique réellement à la population malienne, qu'ils ne sont pas opposés, mais l'interprétation que les uns et les autres en font pose problème. Aujourd'hui, la décentralisation, nous ne la comprenons pas, parce que quand vous regardez dans l'accord, tous les aspects qui posent aujourd'hui problème, qui semblent même choqués, sont dans des lois antérieures à l'accord lui-même, qui sont dans les textes de la décentralisation. Ben, ça pose problème. Et si cette décentralisation n'a pas été expliquée, et que les gens ont l'impression en réalité que l'accord est imposé de l'extérieur, qu'il y a des clauses qui sont là-dedans, qui arrangent X ou Y, alors que l'accord, en réalité, est un accord national. Ce n'est pas un accord fait sur mesure pour les Tamachèques, ce n'est pas un accord fait sur mesure pour les Nordistes, c'est un accord national. Et l'article 4 et l'article 2 de la Constitution nous obligent aujourd'hui à rendre l'accord opérationnel sur l'ensemble du territoire national, mais pas seulement pour les régions du Nord.
Ali Tunkara, qu'est-ce qui est à la base de cette méfiance croissante de la population alors ?
Merci pour la question. Je pense qu'il est quand même important de rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que le centre Carter a été quand même mandaté par les partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation de faire l'état des liés quant à l'effectivité en termes d'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc ce n'est pas un centre qui s'est autoproclamé, c'est quand même important. Alors très rapidement, c'est vrai que c'est normal que la méfiance soit démise parce que beaucoup m'a rappelé un certain nombre d'aspects qui me paraissent importants. Mais n'oublions pas quand même le contexte et la circonstance qui ont caractérisé cet accord pour la paix et la réconciliation. En toute objectivité, voilà, sommes-nous en face d'un accord, contrairement à ce qu'avancerait beaucoup, qui me paraît effectivement fait sur des bases à la limite un peu calomnieuses. De façon simple, supprenez rien que l'appellation Azawad. Voilà, sommes-nous partis d'une volonté ultra-minoritaire et l'imposer à une écrasante majorité. J'ai parcouru toutes les régions dites nord du Mali. Vous demandez les populations majoritaires, elles ne connaissent pas, ne serait-ce que l'appellation Azawad. Donc c'est le dictat de la partie opposition, la partie rebelle, ex-rebelle de Kidal, qui a imposé déjà l'appellation Azawad, donc, ce qui pose un problème d'ancrage. Et notre aspect important, c'est quand même scandaleux, si vous lisez un peu le projet qui était censé effectivement redéfinir les découpages administratifs, rien que les régions dites nord du Mali, on prévoyait 34 cercles, seulement les parties noires, on ne voyait que 13 cercles. Or, les parties dites peau-rouge, elle seule avait autant de cercles. Donc, c'est pour vous dire que je pense qu'il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes, Maliens. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise dans l'accord une représentativité réelle des populations du Nord dans les institutions, c'est quand même n'importe quoi. Qu'attendons-nous par population ? Est-ce que ce sont les Maïgas, les Touré, ou ce sont seulement les Hague, Ibn ? Voilà, je crois que c'est cela. L'accord veut tout simplement dire nous voulons que les Tamachèques et les Arabes soient sérieusement présent dans les différents domaines de gouvernance au Mali. Si ça est des populations du Nord, c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi ? Parce que les populations du Nord, tout le monde le sait pertinemment, les Arabes et les Tamachèques, si vous le comptez du point de vue numérique, vous ne pouvez aucunement prétendre étiqueter l'ensemble de toutes ces populations songoy au nom d'une ultra-minorité, notamment ex-rébellion, qui a su s'imposer, effectivement, lors de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, et faire de sa revendication une revendication globalisante. Donc je pense que les fondamentaux de l'accord, déjà, sont biaisés, parce que ce sont des fondamentaux qui ne sont ni démocratiques, qui ne sont ni démographiques, qui ne sont même pas géographiques. Rien que l'appellation, ce qu'on entend par population du Nord, c'est n'importe quoi. Si l'on veut même faire, d'ailleurs, cet accord pour la paix et la réconciliation, nous amène non seulement vers l'ethnicisation de l'armée, nous amène ce qu'on pourrait même qualifier une forme de racialisation même de l'administration. Depuis quand du président Amourou Keïta aujourd'hui, les Maliens et les Maliennes ont intégré les différentes équipes gouvernementales parce qu'ils sont bois, parce qu'ils sont soreilles, ils sont tamachèques, ils sont arabes. Je crois qu'il faut arrêter avec cela. Ceux-là qui sont derrière cet accord pour la paix, ils s'appartiennent chez eux On n'intègre pas une armée parce qu'on est soniqué. On n'intègre pas une armée parce qu'on est bois. Je crois qu'il faut arrêter. Si l'on s'inscrit dans une dimension d'exclusion ou de rejet, s'il y a une communauté aujourd'hui qui doit se rebeller au Mali, je ne pense pas que ce soit la communauté Keltamache. Il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Si l'on ne veut pas poser ce problème en termes sous son angle racial, sous son angle minorité qui a si imposé son dictat à une ultra-majorité silencieuse, mais l'accord ne pourra jamais être incorporé. Donc dire que l'accord est fait pour l'ensemble du Mali, franchement, on n'a pas besoin de faire un doctorat en sciences politiques à la lecture de l'accord pour se rendre à l'évident. Donc c'est un accord, effectivement, qui a été signé par un État très affaibli, lequel État affaibli, malheureusement, a compris qu'il ne fallait pas, qu'il ne faut pas du tout l'appliquer. D'où, aujourd'hui, tous ces retards accusés, dénoncés par le rapport produit par le centre Carter. Donc c'est normal que l'État ne l'applique pas, parce qu'il sait pertinemment que son application va l'amener à assister à ses propres funérailles.
Alors, je vous tiens au mot. André Bourgeot, vous venez d'entendre des explications. L'État, c'est un État affaibli qui a signé l'accord pour la paix. Les fondamentaux ont été biaisés, manque d'explications autour du contenu. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait que l'accord peine à être appliqué aujourd'hui?
Ouais, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la situation actuelle. La première chose que je voudrais dire, c'est que la terminologie politique, la terminologie conceptuelle du contenu de l'accord est extrêmement floue. Donc ça nécessiterait quand même des clarifications importantes et qui viseraient une compréhension meilleure, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que effectivement le peuple malien n'a pas du tout été impliqué dans le contenu de cet accord, puisque ça n'a pas été ni discuté au sein de l'Assemblée nationale. Or quand même, l'Assemblée nationale, elle incarne la souveraineté aussi du peuple malien, d'une part. Et d'autre part, à ma connaissance, elle n'a pas été discutée non plus au niveau institutionnel, à savoir au niveau du Conseil des ministres. Donc c'est quand même quelque chose d'assez douteux, qui est d'assez surprenant pour un accord qui met en jeu le devenir du peuple malien, et le devenir aussi des institutions et de l'État malien. Donc à cet égard, je crois que les problèmes majeurs qui sont connus, et que de plus en plus, effectivement, il y a une hostilité qui se développe. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire cet accord-là, il faut le mettre complètement de côté, il n'a aucune application. Non, c'est vrai que ça renvoie à une situation particulière qui est celle de 2015. Depuis 2015, la situation politico-militaire, sécuritaire aussi, a considérablement évolué. En l'espace de quelques années, il y a eu quand même beaucoup de transformations, d'où la nécessité. Moi, je préfère utiliser le terme de renégocier, parce que ça me paraît participer d'un vocabulaire plus politique que celle de relecture. Une relecture, ça ne veut pas dire grand-chose. Et renégocier sur la base du document existant, et puis quelque chose aussi qui renverrait à une participation du peuple malien. Moi, ce qui me choque dans cet accord-là, c'est encore une fois l'absence de clarification terminologique. Je veux comme un argument à développer. Bon, vous avez l'article, je crois que c'est l'article qui donne comme définition une transformation qui irait d'une réorganisation du politique qui irait au-delà de la décentralisation poussée et au-delà d'une régionalisation. C'est le problème de l'élection au suffrage universel du président de région, comme selon les mêmes modalités électorales que le président de l'État et selon les mêmes modalités électorales aussi que l'Assemblée régionale. Maintenant, si vous appliquez strictement cet aspect-là, dans le contexte actuel, je dis bien dans le contexte actuel où à peu près les deux tiers du pays sont sous la tutelle et sous le joug des groupes armés salafistes djihadistes. Qu'est-ce qui va se passer? Si effectivement c'est appliqué, j'imagine difficilement que ces groupes salafistes djihadistes vont laisser des candidats à se présenter librement. Il y aura nécessairement des pressions terribles sur les candidatures. Donc j'imagine difficilement que ces élections seront libres. C'est-à-dire qu'on peut déboucher, mais c'est une hypothèse qu'il faut prendre en considération. C'est pas simplement une vue de l'esprit. On peut arriver à la situation suivante, c'est qu'un président de région soit issu de la mouvance salafiste djihadiste. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, puisqu'il est détenteur du pouvoir exécutif, il transformera une région-État, parce que ça se pose en ces termes, en un émirat. Donc, si ça s'applique sur les deux tiers du territoire malien, on risque de déboucher sur une sorte de chaos institutionnel dans la réorganisation du politique au détriment de l'État-nation unitaire. C'est ça qui me semble extrêmement dangereux. Si les deux tiers du directeur national, et c'est reconnu pratiquement par tout le monde, sont sous le joug des salafistes qui déjà font appliquer la charia, c'est ça aussi qui est important. J'imagine difficilement que ce soit autrement dans les conditions de transformation des régimes d'État, un émirat. Donc ça va déboucher sur quelque chose qui irait dans le sens d'émirat sahélien uni. Je ne sais pas combien il y a de régions de prévues dans l'accord, mais je crois qu'ils n'ont pas avancé le nombre aussi de régions qui tiennent. La seule référence qui existe dans cet accord-là, c'est l'Azawad. Alors il y a une contradiction fondamentale entre le fait de dire que le contenu de toutes les modalités, toutes les propositions doivent être appliquées sur l'ensemble du territoire national, alors que depuis 2015, l'application se fait, je m'excuse, elle se fait exclusivement au niveau du septentrion malien qui s'appelle maintenant, c'est revenu, c'est passé dans les usages, qui s'appelle Azawad. Et l'Azawad, c'est l'Azawad de la conception des groupes armés ex-indépendantistes, c'est-à-dire tout le septentrion malien jusqu'à Taoudenni. C'est quand même un peu inquiétant, c'est la conception, ça correspond aux revendications des groupes armés ex-indépendantistes qui sont ultra minoritaires, y compris dans les sociétés de culture arabo-berbère. Maintenant, sur le plan démographique, il y a quand même un problème majeur. Sur les septentrions maliens, il y a quand même d'autres sociétés que les sociétés maures, arabes et touaregs. Et il y a quand même les Sangoy, ils sont loin d'être minoritaires. Vous avez des Bellas, vous avez des Peuls, vous avez des Bozos, vous avez des Dogons, et tout ça. Donc tous ces gens-là ne participent pas aux transformations qu'il y a actuellement en œuvre. C'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant pour le devenir de l'État-nation unitaire.
Alors, à vous entendre parler chacun...
Je termine là-dessus. C'est pour ça que je comprends difficilement pourquoi la communauté internationale, et notamment le médiateur algérien, exige une application stricte de cet accord.
Alors, à vous entendre parler, chacun expliquer ce qui expliquerait cette méfiance entre les parties, également ces lenteurs constatées dans la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que les partis signataires jouent même franc jeu les uns envers les autres, Boubacar Boukoum ?
Mais c'est toute la difficulté, parce qu'il n'y a pas une bonne communication dans cet aspect de l'accord. M. Tungara l'a dit, mais moi, pour moi, ce n'est pas la grande inquiétude, la terminologie Azawad, parce qu'elle n'est pas tranchée. Donc l'accord ne le tranche pas. La base aussi de la gouvernance n'est pas tranchée par l'accord. Donc il s'agit de notre intelligence et de notre mise en œuvre. Maintenant, si on a un État failli en face, il faut que cet État failli s'assume. S'ils sont incapables de faire orienter le pays dans la bonne direction, il faut ça aussi qu'on l'acte. Ça, ce n'est pas la faute à l'accord. Ça, c'est la faute à nos dirigeants qui ne s'assument pas de façon convenable. Ça, il faut qu'on puisse le situer. Ensuite, M. Bourgeois a parlé d'un aspect démographique et tout ça. En réalité, ce qui se passe à Kidal aujourd'hui, acte de l'embryon d'un fédéralisme en réalité. C'est ça l'accord. L'accord parle de quoi ? Du fédéralisme à la malienne. C'est ça l'embryon de Kidal. Parce que quand vous regardez, quand il parle du président élu au suffrage universel direct, le président des régions élu au suffrage universel direct, c'est un mode électif. Ça ne donne pas toutes les prérogatives. Maintenant, les prérogatives, c'est à nous de l'encadrer à travers des lois. Mais il faut qu'on s'organise, il faut qu'on dise quelle est la substance que nous y mettons. Mais si nous ne mettons rien, mais c'est permis à tout le monde de mettre le contenu qu'il veut, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème de djihadisme rampant et tout ça, mais même Bamako est menacé. Qui n'est pas menacé aujourd'hui? En réalité, Bamako même est presque sous emprise. Il y a problème. Maintenant, est-ce que pour cette raison, on va remettre en cause un document? Non, je pense que ce n'est pas là la question. Il s'agit pour l'État juste de prendre ses responsabilités. Les risques qui existent dans l'application de l'accord, mais on en parle. Ce n'est pas un tabou. C'est pourquoi vous avez dans l'article, dans l'accord, l'article 65 qui permet effectivement, si on a des points de blocage, si on ne se comprend pas sur un certain nombre de choses, on peut le revoir, ce n'est pas un problème. Donc c'est de dire aujourd'hui que l'embryon, le squelette qui a été mis en place donne d'abord l'architecture d'un État fédéral qu'ils ont acté, parce que la régionalisation, la communautarisation, tout ça c'est les ateliers de réformes territoriales et tout ça qui ont donné ces éléments à l'accord en réalité. Donc ça ne sort pas du néant. C'est nos textes qui ont été interprétés de cette façon et qui ont été reconduits en grande majorité dans l'accord. Maintenant, si nous avons des difficultés d'application, mais ça aussi, il faut qu'on puisse en parler en réalité, mais qu'on ne passe pas un procès d'intention. Parce que la difficulté dans cette histoire, c'est qu'on prête le flanc à un jeu très dangereux.
Alors,
il ne faut pas faire dire à l'accord ce que l'accord n'a pas dit, même si on sait qu'entre les lignes...
Difficulté bon. dans l'application. Docteur Ali Tunkara, si on doit relire cet accord, comme le demandent certains Maliens, le gouvernement également a tantôt parlé d'une relecture intelligente, par où devrions-nous commencer?
Je pense que c'est de jeter de nouvelles bases pour que l'accord soit non seulement compris par les Maliens qui l'ont lu déjà, parce que beaucoup aussi ne l'ont pas lu, mais dans le même temps que l'accord sorte, c'est seulement du déni, quoi. J'ai vraiment du mal. Quand on lit cet accord, je comprends aisément le contexte difficile dans lequel le Mali s'est trouvé lorsqu'il a posé sa signature sur cet accord. Mais c'est quand même aussi scandaleux pour un pays d'accepter d'assister à ses propres funérailles. Parce que je pense que c'est intelligent. Enfin, c'est qu'ils parlent de la lecture intelligente. Est-ce qu'ils entendent ce qu'ils disent jusqu'ici quand même les responsables de la coordination du mouvement de l'Azawad? Voilà des responsables qui sont sur une position plus que figée. Ils ne veulent pas entendre une lecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas l'entendre. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va redonner la parole aux Maliens de se pencher sur cet accord pour la paix et la réconciliation, il va clairement, cet accord, au-delà de la relecture, on va clairement assister à une refonte même de l'accord pour la paix. Donc d'où, effectivement, ces rejets systématiques de la part de la coordination du mouvement de l'Azawad. Mais ce qui est quand même étonnant avec la communauté internationale, il est prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation que tous les groupes armés non étatiques, au terme de la signature, voilà, regagnent les différents sites de cantonnement, de déposer les armes pour aller vers la réinsertion. Mais la partie CEMA, armée, elle a catégoriquement refusé de se désarmer, justement. Et elle continue même demain, si elle a un discours, cette partie armée de la CEMA, à adresser à l'État du Mali, c'est-à-dire que je n'accepterai jamais de me désarmer, même les quelques avancées timides, telles que ces bataillons constitués de ce qu'ils appelleraient l'armée reconstituée, que j'ai toutes les peines du monde à l'accepter, parce qu'on peut parler du caractère républicain d'un État, en même temps s'attarder sur des singularités, ce qui est un problème terminologique. Alors, quand on prend cette armée reconstituée qui se trouve aujourd'hui à Kidal, cantonnée, c'est quand même scandaleux, parce qu'effectivement, la CEMA ne veut pas que cette armée soit opérationnelle. Mais ni la France, ni l'Algérie, ni les États-Unis, d'autres États, puissants quand même dans l'accord pour la paix et la réconciliation, n'exigent à la partie armée de la CEMA de se désarmer quand même pour qu'on aille vers une armée reconstituée. Maintenant, la partie armée de la CEMA, elle subordonne le désarmement, de toute façon, elle ne va jamais se désarmer, elle subordonne le désarmement justement à l'application effective et réelle. Donc, quand j'entends Dr Schogel, le Premier ministre, parler d'une relecture intelligente, bon, il prend les gens pour de cons. Je comprends, lorsque les officiers supérieurs sont arrivés au pouvoir, ils ont quand même parlé de l'accord, de l'achat, de la transition. C'est une bonne chose, mais eux-mêmes, ils savent pertinemment que les raisons qui ont amené le président Keïta, ses collaborateurs, de ne pas aller à une application effective de cet accord, ces mêmes raisons restent valables. Je crois que pour qu'on aille vers, pour répondre à la question, quand même, qu'est-ce qu'il faut concrètement changer de l'accord pour la paix et la réconciliation? En toute objectivité, je ne suis ni la CEMA, ni la partie gouvernementale, non plus le centre Carter. Franchement, si cet accord est fait pour le Mali, il est de la responsabilité aujourd'hui des autorités de la transition, de la CEMA, et surtout de la communauté internationale, parce qu'elle est quand même silencieuse par rapport à tous ces comportements peu orthodoxes auxquels un nombre important de la partie armée de la CEMA ferait l'objet, de demander à ce que, voilà, c'est un accord qui est signé pour tous les Mali, et non pas seulement, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, non pas seulement ceux qui sont qualifiés de peau rouge, les Arabes et les Tamashèques. Le problème, il est là. En fait, tout ce qu'on vous dit de l'accord là, et qu'on a peur de vous dire là, tous les privilèges demandés sont dirigés aujourd'hui en faveur effectivement de ceux qui sont appelés de peau rouge dans les régions du nord du Mali. Si l'on croit au numérique, si l'on croit à ce qui brandit la démocratie, si l'on croit au caractère républicain de l'État, moi je ne vois pas en quoi on peut s'opposer à une telle refonte de l'accord. Moi, je ne parle même pas de la lecture, parce que la CEMA ne va jamais accepter une lecture.
Alors, la CEMA ne va jamais accepter une relecture, ouais, de l'accord. André Bourgeot, de 2015, l'année de signature de l'accord pour la paix à ce jour, quels sont les progrès réalisés? Est-ce que les lignes ont bougé?
Oui, les lignes ont bougé parce qu'une partie de cet accord-là est appliquée dans le septentrion malien que certains veulent appeler et veulent faire reconnaître comme étant la Zawad. Il y a une partie qui est appliquée. Le rôle d'administrateur, je dis bien le rôle de l'administrateur de la coordination des mouvements d'Arabes, des mouvements de la Zawad à Kidal, ils administrent toute une région, et notamment la région de l'Adar, appelée par cette appellation coloniale Adrat et Ziporas. Donc, ils assurent déjà une fonction d'État, y compris sur le prélèvement des taxes dans les sites orifères, dans leur paillage artisanal, etc. Ils prélèvent déjà des taxes, ils ont instauré un système de sanctions, etc. En plus de ça, ils ont mis sur pied une police locale qui devient une police territoriale. Donc tout ça, c'est quand même aussi des caractéristiques d'un État. Et face à cette transgression du contenu de l'accord pour la paix, j'observe que la communauté internationale est particulièrement muette. Donc si cette communauté internationale est muette quand un signataire transgresse le contenu, je me dis, mais de quel droit maintenant elle va dire vous faites ça, sinon vous aurez des sanctions. Il y a quand même une contradiction quand même importante. Mais je voudrais revenir aussi sur le fait que se met en place un système fédéral. Je suis désolé, mais le président de région est élu au suffrage universel et il est détenteur du pouvoir exécutif. Et toutes les décisions qui seront prises par le président de région seront appliquées immédiatement et ensuite ce sera le gouverneur, le représentant donc de l'État, qui sera chargé de vérifier si effectivement c'est bien. Ce sera a posteriori. Alors la question que je me pose, je dis, mais est-ce qu'en définitive, le gouverneur qui est chargé de contrôler, une fois que la décision est prise et qu'elle doit être appliquée, est-ce que ce n'est pas simplement un vice-consul? C'est quand même quelque chose de très inquiétant. Et ensuite, dans ces circonstances-là, mettez-vous à la place du petit Malien, y compris lettré. Alors à cet égard-là, j'ai beaucoup apprécié la notion de relecture qui s'adresse à une population où, sauf erreur de ma part, vous avez 27% de la population qui est lettrée. Alors je me dis, mais relecture, c'est des décisions de nature politique. On parle de relecture et on veut s'adresser au peuple malien qui n'est pas lettré. Vous voyez, toutes ces contradictions-là, c'est quand même quelque chose qui dérange beaucoup. Donc, dans ces circonstances-là, je comprends qu'il y ait une hostilité et donc une méfiance, parce que, encore une fois, une partie de cet accord est appliquée dans le septentrion, c'est-à-dire dans la Zawad. Ce qui fait en sorte que ceux qui ont lu et analysé l'accord, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet accord-là? C'est un accord qui conduit de facto à une partition, d'autant que le reste des régions qui ne sont jamais définies, parce qu'il n'y a toujours pas de carte de découpage des régions. Et alors on se dit, ce qui se met en place actuellement, et ça c'est une réalité, les processus politiques et économiques qui sont actuellement en place, favorisent d'une manière très nette le septentrion au détriment du sud. Donc se crée maintenant de nouvelles divisions qui font en sorte qu'une partie du peuple malien dit, mais c'est un accord qui est porteur de partition territoriale.
Alors, une dernière question autour de table sur l'application de l'accord pour la paix avant d'entamer le dernier volet de cette émission qui parle de l'augmentation des 25% des cas de violation des droits de l'homme au Mali, un rapport de l'AMINUSMA. Que faut-il aujourd'hui pour une pleine application de l'accord pour la paix? Je commence par vous, Bokoum.
Écoutez, d'abord, il faut d'abord que le gouvernement quitte ce mutisme, parce qu'en réalité, on parle du silence de la communauté internationale, des positions injustes, mais que dit l'État du Mali en réalité? Mais il faut que l'État du Mali s'assume de façon très claire et se positionne par rapport à quelle option il faut prendre par rapport à l'accord. D'abord, est-ce qu'on le revisite? Est-ce qu'on fait la relecture ou est-ce qu'on va à une refondation? C'est à l'État de donner une orientation, quitte à l'État de se battre, de défendre au niveau des Nations Unies et de défendre devant n'importe qui, quelle est la vision de l'État du Mali. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'accord soit partagé par tout le monde. Les points d'inquiétude, qu'ils soient levés. C'est pourquoi tantôt, j'ai dit, il ne faut pas faire dire à l'accord ce que l'accord n'a pas dit. Maintenant, s'il y a des sous-entendus, des mauvaises interprétations, il faut les clarifier de façon claire, tel que M. Bourgeau l'a dit. Ce qui ne va pas, il faut qu'on le dise. Maintenant, on clarifie. Maintenant, si c'est l'application au niveau du septentrion, Mais l'article 4 dit que ce qui est bon pour les régions du Nord l'est aussi pour les autres régions. Mais pourquoi on ne va pas à cette application? Il faut aussi que cette revendication, elle vienne sur la table. Et l'article 2 de la Constitution interdit à l'État du Mali à ce qu'on applique un modèle à une partie du pays et on applique un autre modèle à une autre partie du pays. Maintenant, si on reste inactif et qu'on ne s'implique pas dans cette dynamique, mais il va de soi que ces dérives, on va les observer. Donc je pense qu'en réalité, il s'agit juste pour l'État. Si on a signé à un moment où l'État était failli, ben, je pense qu'encore on a un État failli parce que l'État ne s'assume pas par rapport à ces questions-là. Donc on n'a pas quitté l'auberge parce que de Ibeka, on se retrouve aujourd'hui dans une autre situation application, où on ne va pas à l'application réelle.
Une pleine application, docteur Ali Tunkara, passe par quoi?
Non, il faut être quand même réaliste. Une application effective est impossible à l'état actuel des choses pour des raisons très évidentes. Déjà, le gouvernement du Mali a peur d'aller vers son application effective. De la même manière également, la CMA exige son application, comme la communauté internationale. Mais il faut quand même saluer, il y a quand même des différentes réunions qui sont tenues par le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, lesquelles réunions permettent à certains égards de dépasser certaines inquiétudes, certes légitimes, de part et d'autre. Mais en toute objectivité, du point de vue scientifique aujourd'hui, l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation, si elle venait à être effective, c'est pas de la conspiration, c'est pas du complot, c'est pas du simplisme. Le Mali va assister effectivement plus que de la partition. D'ailleurs, ça a été évoqué, quand on lit, ne serait-ce que le projet relatif au découpage administratif, d'ailleurs même dans le rapport du Centre Carter, il a quand même mis un accent particulier sur le fait de rendre les régions de Taoudéni et de Menaka davantage effectives sur le plan institutionnel que même électoral. Mais franchement, il y a quand même un problème. Pourquoi on insiste autant sur Taoudéni et Menaka? Donc c'est pour vous dire que franchement, si l'on ne dit pas la vérité au Malien, dire que ce qui est applicable à Kidal, l'est à Kayi, l'est à Sigassio, beaucoup, moi, je comprends, il est bien intentionné, mais franchement, dans la pratique, c'est la poudre aux yeux.
André Bourgeot, que faut-il aujourd'hui pour une application pleine de l'accord pour la paix?
Alors, je pense qu'il faut dépasser le contenu de cet accord pour la paix. Et effectivement, il faut, puisque l'article 4 le prévoit, donc c'est une des conditions d'application du contenu de l'accord, c'est qu'il faut que l'ensemble du territoire malien et l'ensemble des populations maliennes soient intégrées dans cet accord. Parce que ça débouche nécessairement sur une réorganisation du politique et sur une stratégie de développement économique. Et pour ce faire, la proposition que j'aurais tendance à faire, je ne sais pas si elle est applicable, mais elle me trotte dans l'idée depuis déjà pas mal de temps, est-ce qu'il ne faudrait pas penser une sorte de plan Marshall, lequel plan aurait une approche globale des problèmes qui connaît le Mali depuis quelques décennies et dans un contexte encore une fois très particulier qui est celui de la tutelle quasiment des groupes armés salafistes djihadistes. Donc ça implique une renégociation. Renégociation, ça ne veut pas dire, d'abord parce que c'est quelque chose de politique, ça va au-delà d'une relecture, et dans cette renégociation, envisager la construction, la réflexion sur la pertinence, la validité opératoire de réfléchir à un plan Marshall sur l'ensemble du territoire national, parce que ça permettrait justement de recréer des conditions d'une cohésion nationale. Alors, on voit bien actuellement, avec les affrontements intercommunautaires qui sont facilement manipulable, que la cohésion nationale n'existe plus. Donc ça, c'est aussi un facteur aggravant qui me paraît extrêmement important.
Alors, pendant ce temps, la mission de l'ONU au Mali a dénoncé dans son rapport trimestriel l'augmentation de 25% du nombre de cas des violations des droits de l'homme. Le document note plus de 500 civils tués entre avril et juin 2021 dans les régions du centre et du nord du pays. Écoutons la synthèse de ce document avec Imrana Kilumaïga.
Cette note trimestrielle de la mission onusienne indique qu'au moins 527 civils ont été tués, blessés, enlevés ou disparus entre avril et juin 2021. Dans le document, l'aménagement regrette une augmentation globale des violations des droits de l'homme de plus de 25% par rapport au premier trimestre, constatant 421 personnes tuées. Le rapport souligne que les 50% des violences contre les civils et leurs biens ont été commises dans les régions du centre du pays, notamment dans le cercle de Bandiagara, Douanza, Djenné, Koro, Mopti, Nyono et Sugu. 15% de ces violations ont été documentées en Songo et Gao au nord du pays. Ces abus de droits de l'homme ont été perpétrés majoritairement par le Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin, NJIM, l'État islamique dans le Grand Sahara, IGS et autres groupes similaires, rapporte le bulletin. Ces groupes terroristes ont tué, blessé ou enlevé 54% des victimes enregistrées sur l'ensemble du territoire. Le document note ensuite que 20% de ces violations ont été commises par les milices et groupes d'autodéfense à base communautaire. De leur côté, les forces armées maliennes, internationales et régionales sont accusées d'avoir commis respectivement 9 et 6% du nombre total des victimes dénombrées au cours de la période considérée.
André Bourgeot, ce rapport est-il conforme à la réalité ?
Ben, la réalité, moi, je la vois un peu de l'extérieur, puisque je suis en région parisienne, mais tout ce que je reçois, c'est quand même quelque chose de très alarmant. Ce que je reçois me permet de dire qu'il y a des attentats de plus en plus fréquents, de plus en plus rapprochés, avec une augmentation sensible du nombre de morts, civils ou pas civils, mais une augmentation quand même assez sensible. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Alors quelle pourrait être la politique sécuritaire, je crois que c'est alors le niveau, ça fait partie d'un axe, des quatre axes définis par le Premier ministre. Mais ça, c'est une déclaration d'intention. Comment la mettre en œuvre? On sent bien aussi que l'armée malienne ne brille pas par un aura important, compte tenu du fait que dans le passé, et que peut-être encore actuellement, il y a eu des exactions qui ont été commises. Donc, comment redonner de l'autorité aux militaires, comment redonner de la confiance, parce que ça se pose aussi en ces termes, avec tous les hommes en uniforme. On voit bien qu'il y a quand même des abus de pouvoir qui se sont exercés un petit peu partout. Donc, ça remet en cause, effectivement, je crois que le rapport que vous mentionnez, que je n'ai pas.
Alors, merci André Bourgeot. Il ne nous reste plus que deux petites minutes, le temps de faire réagir les deux autres invités. Boubacar Boukoum. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation de violence?
Non, je ne pense pas que la violence ait augmenté dès lors que nous sommes dans une situation d'insécurité globalisée. Je pense que c'est juste leur proximité par rapport à l'enquête qui leur donne cette impression. Sinon, je sais qu'aujourd'hui, ces exactions, elles existent partout. Maintenant, quand il s'agit d'accuser, c'est là où je suis d'accord avec M. Tunkara, du complot quand même contre le Mali, parce que cette communauté internationale s'acharne sur l'armée malienne par rapport à l'exaction, alors qu'en fait, on est face à des gens sans foi ni loi. Donc, c'est difficile dans ces conditions quand même de demander à des gens d'être sereins par rapport aux difficultés sécuritaires que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revisiter l'ensemble du système sécuritaire du Mali qui va nous permettre effectivement dans une collaboration plus intelligente avec nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que cette collaboration soit réelle et franche. Et je pense qu'il faut renégocier tout cet arsenal pour voir comment on peut endiguer l'insécurité.
Docteur Ali Tunkara, et le rôle dans l'armée dans tout ça?
Je pense que l'étiquetage pour la commission des actions dites violentes, il n'est pas objectif en réalité. Une des difficultés dans le contexte malien à comment clairement établir le profil de l'acteur de la terreur. En termes simples, on est parfois inscrit dans l'accord pour la paix et la réconciliation, on est parfois dans des conflits communautaires, ou même parfois on se bat au nom du référentiel musulman, notamment le terrorisme. Dans le contexte malien, tous les acteurs de la violence interagissent. Ce qui fait qu'effectivement, quand on lit ce rapport, l'élément qui a cruellement manqué, c'est cette duplicité, cette connexion entre les acteurs de la violence. Maintenant, s'agissant de l'armée malienne, c'est important. Les questions de violation des droits de l'homme sont une évidence. Il faut que l'État soit perçu par les populations comme un État utile. Quand je vois un policier, quand je vois un gendarme, quand je vois un agent des eaux et forêts, je dois être rassuré, mais je ne dois pas être inquiet. Il est de la responsabilité aujourd'hui de l'État-major malien de sortir du déni, de reconnaître qu'effectivement, il y a des éléments, malheureusement, qui n'agissent pas conformément à l'éthique et à la déontologie du métier des armes.
Et c'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue de ce soir. Merci à nos invités, Boubacar Boukoum, politologue, Dr Ali Tunkara, sociologue et chercheur au cabinet CE3S. Au téléphone, on avait André Bourgeot, chercheur au CNRS à Paris et spécialiste des questions du Sahel. Je suis Mariam Maïga. À la régie son et vidéo, on avait Salim Djouara et Nouhoum Djiré. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halo du monde.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.